Vous écoutez RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h44, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Emmanuel Faber, nouveau PDG de Danone.
Bonjour Emmanuel Faber.
Bonjour.
Vous êtes très rare dans les médias. Merci beaucoup d'être sur RTL ce matin à l'occasion de la journée des solutions. Vous êtes le patron de Danone, successeur de Franck Riboud. Ce sera opérationnel, si je puis dire, le 1er décembre prochain. 110 000 salariés dans le monde, on rappelle les enjeux. Plus de 22 milliards de chiffre d'affaires à la tête d'une multinationale de l'agroalimentaire parmi les plus puissantes. Emmanuel Faber, comment vous croire quand vous prétendez protéger la planète tout en voulant nourrir le plus de monde possible et faire le plus de profit possible? Franchement, est-ce que c'est compatible?
Non seulement je pense que c'est compatible, mais c'est même la seule approche sérieuse, pour commencer par le fait qu'on a démarré. On a réduit de 50% notre intensité carbone en 10 ans. On est devenu leader mondial du bio l'année dernière. Donc c'est des réalités. Mais surtout, je dirais même que c'est la seule approche réaliste. Une entreprise, ça n'existe que parce que ça a une utilité sociale.
Une entreprise, c'est pas faite. D'abord, son premier objet, c'est pas de faire des profits.
Son premier objet, c'est de créer de la valeur pour tout le monde.
Donc c'est de faire des profits, de payer ses salariés et de donner des dividendes à ses actionnaires.
Non, c'est avant tout de servir sa mission et son projet. C'est-à-dire que quand on oppose l'économique et le social, on a une approche simpliste, beaucoup trop simple, dangereuse, parce que l'économique est dans le social et le social est dans l'économique. Cette dichotomie, elle nous arrange tous, mais elle est beaucoup trop simpliste.
Vous parlez beaucoup d'éthique. On va s'y arrêter quelques instants. Une entreprise éthique, Emmanuel Faber, c'est quoi? Est-ce que c'est une entreprise qui, quand même, a pour objet de gagner le plus d'argent possible et grâce à ça, finalement, fait de la philanthropie, subventionne des associations, fait du mécénat, etc. Est-ce que c'est ça?
Pas tout à fait, non. Pour moi, c'est une entreprise qui intègre la dimension sociale à l'intérieur même de son modèle économique. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle marchand, c'est de l'économie, donc on vend, on achète, on échange. Donc la performance et l'efficacité, elle est au cœur de ce modèle. Et en même temps, la conviction chez Danone, c'est que le social, c'est à la fois le moyen et la finalité. Donc une entreprise sociale, je me méfie du mot éthique, parce qu'on peut toujours en parler, mais une entreprise qui prend en compte le social, c'est une entreprise qui se dit... le pouvoir d'achat des salariés, c'est important. Qui se dit le revenu des agriculteurs en amont, c'est important.
Qu'est-ce que vous faites pour vos salariés? Votre politique salariale chez Danone.
La politique salariale chez Danone, en France, depuis 10 ans, on a donné plusieurs points de pouvoir d'achat, 7 points de pouvoir d'achat à nos salariés en France. 7%
d'augmentation
de salaire en plus du niveau de l'inflation. C'est des salaires en moyenne, des salaires ouvriers chez Danone en France, 30% supérieurs à la moyenne de l'industrie. C'est de la formation. Quand on vient d'inaugurer le nouveau site d'embouteillage de l'eau à Évian, qui est neutre en carbone. Pour ça, on est arrivé à une digitalisation incroyable de ce site. Donc, c'est le site le plus moderne du monde en embouteillage d'eau. 200 000 heures de formation cumulée sur 6 ans pour les 600 salariés du site pour passer à cette digitalisation. Donc, en faisant ça, on travaille sur l'employabilité des gens, sur le développement de leur capacité
professionnelle. Sur la fidélité. Une question qui est dans l'actualité. Est-ce que les hommes et les femmes sont payés de la même façon chez vous, à compétences égales, naturellement?
À compétences égales, oui, absolument. Oui, j'en suis certain. On a un écart de 3 à 5 % au total qui est lié à la durée moyenne dans l'emploi pour l'instant, mais c'est un écart sur lequel on travaille.
On reviendra sur votre ambition de tout combiner, est-ce que c'est possible? Mais pour décliner la façon dont vous faites, revenons à l'industrie alimentaire. Elle est allée très loin, l'industrie alimentaire, agroalimentaire, dans le modèle productiviste, c'est-à-dire l'idée qu'il faut vendre le moins cher possible, le plus de calories possible. C'était ça le modèle qui a amené à ces super profits. Ce modèle, il va dans le mur en klaxonnant?
Ouais, il va dans le mur sans klaxonner, c'est ça le danger. Mais il va dans le mur, c'est-à-dire que on voit très bien que le modèle de très grande échelle avec des chaînes d'approvisionnement logistique mondiale très complexes arrive aujourd'hui à ses limites. Il arrive à une asymptote, c'est-à-dire que la qualité nutritionnelle des aliments baisse, le contenu nutritionnel a baissé, même si le contenu calorique au total a augmenté. les progrès techniques qu'on fait dans ce domaine-là baissent, c'est-à-dire que les effets d'échelle graduellement ne sont plus aussi rentables, entre guillemets, qu'auparavant. Et surtout, et pour moi, on ne tient absolument pas compte du coût de remplacement des ressources qu'on mobilise, c'est-à-dire que les sols sont épuisés dans de très grandes parties du monde, aux États-Unis en particulier, mais aussi en Europe, en Argentine, etc., en raison de la logique de monoculture à très grande échelle qui a été adoptée pour parvenir à cette baisse de coûts.
Mais vous, les industriels, de toute façon, vous êtes profondément remis en cause par les consommateurs. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui, alors plus dans les pays riches que dans les pays pauvres, c'est vrai, mais qui se détournent, qui défient les multinationales en préférant les circuits courts, qui s'organisent en mini-centrales d'achat pour consommer locavore, pardon, sans intermédiaire. Ils vous contournent, ça vous fait peur ?
Je ne leur dis rien, c'est à nous-mêmes et à mes confrères que je m'adresse, parce que je pense qu'en effet, il faut qu'on soit conscient de la révolution qui est en cours dans l'alimentation au niveau mondial. Cette logique que vous décrivez, elle s'applique à peu près partout dans le monde. C'est une question de génération, c'est une question de prise de conscience. L'alimentation qui était un sujet qui n'intéressait personne il y a 30 ans, parce que les grandes marques étaient là, on se développait. On avait adopté des styles de vie. Aujourd'hui, ces styles de vie sont remis en cause. 600 millions de personnes obèses dans le monde, 30% de personnes dans plein de pays.
C'est un mouvement de fond,
une lame de fond. Donc en tant qu'industrie, absolument, on a le choix entre lutter contre ça, en se disant on reste dans l'ancien modèle et on va se battre jusqu'au bout avec les armes de l'ancien modèle, ou on sert cette révolution-là. Parce que je ne crois pas du tout que ce soit la fin des grandes marques. C'est la fin des grandes marques si les grandes marques ne bougent pas. Mais si les grandes marques s'engagent, elles s'engagent à la mesure de ce qu'elles peuvent faire, alors il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas des grandes marques demain.
Vous les accompagnez, vous êtes obligé d'imaginer une riposte quand même, sinon c'est une question
Pour moi, ce n'est pas une question de riposte, c'est une question de répondre. Je parlais d'utilité sociale. Aujourd'hui, aux États-Unis, 97% de la production agricole est OGM, 3% bio. Il n'y a rien entre les deux, avec un prix du simple au double. Nous, on a décidé de faire quelque chose. On est leader américain du yaourt. On a décidé qu'on allait faire une transition en 18 mois de la moitié de nos volumes, c'est-à-dire plus d'un milliard de dollars de vente de yaourt, entièrement en dehors du circuit OGM. Pour ça, il a fallu aller voir directement les agriculteurs, les grandes firmes semencières, les ONG, commencer à faire cette transition. Et on les a aidés financièrement. Ça nous coûte plusieurs dizaines de millions d'euros.
Vous les aidez à faire quoi ? À changer, produire autrement ?
À changer l'alimentation de leur bétail, pour que ce soit de l'alimentation à partir de fourrages non OGM, des fourrages conventionnels.
Qu'est-ce que vous faites pour les producteurs français ? Alors Danone ne vend pas de lait, mais en achète beaucoup en France. 90% de votre chiffre d'affaires, je le répète quand même, et c'est à l'international. Donc on peut considérer qu'on est un petit marché, mais enfin Danone, c'est une des marques préférées des Français. Parlez-nous un peu des producteurs. Qu'est-ce que vous faites pour nos petits producteurs ? On en parle souvent sur RTL, qui vendent et qui gagnent moins que rien.
Oui, on ne peut pas parler d'utilité sociale si on n'intègre pas l'ensemble du cycle de production. Et donc, la démarche de Danone, c'est depuis très longtemps de travailler en France, comme partout ailleurs d'ailleurs, en direct avec nos agriculteurs.
Enfin, ils gagnent moins d'argent qu'avant encore.
Oui, absolument. Mais c'est pour ça que, face à la baisse des prix du lait qui sont liés à des effets de mécanismes de marché mondiaux, depuis 2015, donc avant que tout ça ne devienne public, Danone a décidé de mettre un plancher dans le prix du lait que nous payons. C'est-à-dire que l'année dernière, on a payé une prime qui, pour chaque agriculteur, représentait 3 000 € de revenus annuels supplémentaires par rapport au prix du marché.
Avec une contrepartie que vous leur demandez ?
Avec la contrepartie de travailler sur les questions de productivité, d'efficacité avec eux, et surtout à charge de revanche. C'est-à-dire que le jour où les prix exploseront, on aura un contrat de long terme, mais qui permet à chacun de travailler et d'investir dans la durée de façon sereine.
La Confédération paysanne a porté plainte contre vous, entre autres, il y a un an. Entre autres, elle vous accuse de ne pas payer correctement, justement, les éleveurs. Alors que, je cite, j'ai un papier sous les yeux, vous avez doublé votre bénéfice au premier semestre 2016. Danone a annoncé un doublement de son bénéfice au premier semestre 2016. Il continue à faire des bénéfices considérables en payant les producteurs en dessous des coûts de production.
Oui, il faut repartir d'une réalité, c'est que l'alimentation, contrairement d'ailleurs à ce que le modèle industriel apprenait pendant très longtemps, l'alimentation c'est une réalité locale, une réalité culturelle, de diversité, de style de vie, de tradition, qui s'appuie sur une agriculture qui sont locales. À partir de ce moment-là, les bénéfices de Danone, ils ont cru l'année dernière parce que la Chine est en croissance très forte sur les produits que nous vendons, sur les produits de nutrition infantile, sur l'eau, etc. En France, les produits laitiers frais ont baissé, les prix ont baissé de 13% en 5 ans. Les prix de vente. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons décidé, en effet, de protéger la valeur pour nos agriculteurs en proposant une prime qui est de 8% l'année dernière par rapport au prix du marché.
Il nous resterait peu de temps, beaucoup de questions encore. Pour que l'économie de marché soit responsable, Emmanuel Faber, il y a un an avec d'autres, vous avez appelé à ce que le code civil évolue et précise que le but d'une entreprise, c'est pas seulement de faire des bénéfices, c'est justement d'être social. Où en est votre projet ? Est-ce que, par exemple, le gouvernement l'a mis au fond d'un placard ou en haut d'une pile pour que ce soit traité très vite ? Qu'est-ce que vous en savez ?
Je crois que ce thème est pris très au sérieux par le gouvernement. Les états généraux de l'alimentation ont d'ailleurs été l'occasion de montrer l'importance de la question de ce partage de la valeur hein, sur l'ensemble de la chaîne de production et des cycles. L'occasion de la loi sur l'économie du printemps ne doit pas être manquée et je pense que le gouvernement travaille en effet sur ce sujet-là et c'est super pour la France.
Danone est une entreprise mondiale au capital fragmenté, donc assez fragile sur, si je puis dire, le marché des OPA. Vous n'êtes pas à l'abri des prédateurs. Est-ce que la responsabilité sociale que vous mettez en avant, ça peut être une forme de bouclier industriel, capitalistique ou pas ?
Je pense que c'est comme prendre Actimel le matin, ça fait partie des défenses immunitaires que je conseille à tout le monde. Et donc la politique sociale, ça fait partie de la performance économique, c'est ce qui est derrière nos marques, Evian, Volvic, Badois, la marque Danone que nous relançons aujourd'hui. Donc l'utilité sociale d'une entreprise, c'est ce qui fait son enracinement, c'est fondamentalement ça, sa valeur. Et la réduire à une transaction financière, c'est terriblement réducteur. La finance doit être au service de l'économie et pas l'inverse.
S'engager comme vous le faites, c'est-à-dire mieux payer les producteurs, prendre soin des consommateurs, puisque vous dites que vous le faites, que les produits Danone sont sans OGM par exemple du tout en France, et que vous faites beaucoup d'alimentation infantile dont vous dites qu'elle protège les consommateurs,
Medina,
etc.
Gaia, oui.
Prendre soin de ses salariés, on en a parlé. Est-ce que ça veut dire aussi que vous rémunérez moins les actionnaires, vous pourriez le faire ? Vous avez une politique...
Ça veut dire qu'on rémunère nos actionnaires de la façon qui nous paraît la plus juste par rapport au projet de l'entreprise, et notamment en prenant en compte trois horizons de valeur, du court, du moyen et du long terme. Pas exclusivement du court terme et tout de suite, parce que sinon, il n'y a pas de projet d'entreprise, et en particulier, les grandes entreprises qui veulent participer à la révolution de l'alimentation ne pourront pas le faire. Notre projet, c'est de le faire.
Et vous êtes à l'aise avec les gros salaires comme le vôtre ?
Non.
C'est normal ?
Ah, c'est normal, ça j'en sais rien, mais est-ce que je suis à l'aise moi à titre personnel ? Je l'ai déjà écrit, non, j'estime que je gagne plus d'argent que ce dont j'ai besoin pour travailler et être motivé tous les jours.
Dernière question, beaucoup vous ont découvert, Emmanuel Faber, il y a 2 ans, quand vous avez fait un discours très personnel devant une promotion de HEC, en évoquant le fait que votre vie avait été changée lorsque vous aviez appris la maladie de votre frère. Ça a eu un fort impact, c'était assez étonnant, beaucoup vous ont découvert, je l'ai dit, près de vous et au-delà. Ça vous a étonné, ça vous a surpris, cette réaction ?
Oui, franchement, oui. Je cherchais simplement à partager avec ces étudiants dont j'ai été il y a 30 ans ce qui aurait pu être utile qu'on me dise en sortant d'école, et j'ai essayé de dire ça.
Que la gloire, le pouvoir et l'argent, ça ne devait pas être des...
Ça ne dure pas très longtemps, oui.
Ça ne dure pas très longtemps. Merci beaucoup d'avoir été avec
Merci
nous ce matin, Emmanuel Faber, sur RTL.
120 000 salariés, 22 milliards de chiffre d'affaires à l'occasion de notre journée des solutions. Le PDG de Danone déclare sur RTL, on a réduit de 50% notre intensité carbone en 10 ans. Nous sommes leader mondial du bio et les salaires ouvriers chez Danone sont en moyenne 30% plus hauts que dans l'industrie dans notre pays. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.